radio. Okapi. Okapi. Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachamou. Okapi.
Fidèles auditeurs, bienvenue dans cette deuxième tranche du magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. Nous allons parler de l'électricité. Que faire pour augmenter les taux de couverture en énergie électrique en République démocratique du Congo? Maître Eric Kasongo, directeur exécutif du Centre Congolais pour le Développement Durable, sera notre invité, ainsi que Monsieur Idriss Koudié, ingénieur en génie électrique. Des questions et préoccupations, composez le 081 800 90 63 94. Écrivez-nous également à service@radiookapi.net. Tatima Fouko assure la réalisation et la coordination de cette émission est assurée par Marcel Ngomo Balakeba. Jody Daniel Keshama au micro sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Bienvenue à tous.
Dédicace.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Okapi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour.
En tout cas, j'étais très ravi par rapport
à ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence.
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas de travail.
Le intouchable, dans ces pays, n'existe pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Bienvenue dans cette deuxième partie du magazine Okapi Service. Des nombreux ménages en RDC n'ont pas accès au courant électrique depuis des décennies. Selon les experts, moins de 10% des Congolais seulement bénéficient de l'électricité. Là où il y a du courant, les coupures intempestives sont fréquentes, les coupures intempestives d'électricité. De nombreuses personnes recourent aux groupes électrogènes ou bien aux panneaux solaires pour faire fonctionner les appareils électroménagers ou pour d'autres besoins. Alors pourquoi les taux des dessertes en énergie électrique est faible dans notre pays malgré les potentialités énergétiques énormes qui dispose la RDC, et comment augmenter le taux de couverture en énergie électrique à travers le pays? Maître Eric Kasongo, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes directeur exécutif du Centre Congolais pour le Développement Durable. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui explique cette faible couverture en énergie électrique à travers le territoire à travers la République, je veux dire?
Merci beaucoup pour la question et merci également pour l'invitation pour ce sujet très important pour le développement de notre pays. Eh bien, pour moi, ce qui justifie cette situation, c'est notamment l'absence d'une politique claire de développement de manière vraiment efficiente de tout ce que nous disposons comme ressources, parce qu'il faut le rappeler à nos téléspectateurs, à nos auditeurs, pardon, que le pays est béni en termes de ressources énergétiques, mais ces ressources-là ne sont pas développées de manière systématique, de manière correcte. Nous ne sommes pas un pays qui, dans un tel coin, a des sources et d'autres ne l'ont pas. C'est pratiquement tous les pays qui est béni avec plusieurs sources énergétiques, mais seulement c'est le plan de développement de ce source énergétique-là et les incitations qui peuvent être faites à l'endroit des opérateurs privés dans le contexte de la libéralisation, qui ne sont pas encore aussi forts, qui sont très faibles pour que justement les investisseurs privés puissent venir s'inscrire dans un cadre d'un plan qui est tracé pour développer tout ce qu'il y a comme ressources et donner de l'énergie électrique à nos populations dans tous les coins de la RDC. L'Atlas sur les énergies renouvelables qui a été publié en 2014 a donné un tableau clair des potentiels que nous avons en dehors de l'hydroélectricité. L'hydroélectricité qui est la première source propre, la plus facile à développer à RDC. Nous avons plein de sites. Vous avez certainement entendu parler du fait que sur uniquement sur l'hydroélectricité, parce qu'il faut le mentionner, souvent lorsqu'on dit que le potentiel énergétique de la RDC c'est 100 000 MW, les gens ont tendance à penser que c'est 100 000 MW toutes sources comprises. Non, les 100 000 MW ne concernent que l'hydroélectricité. 100 000 MW dont 40 000 concentrés dans les sites d'Inga. Mais si vous ajoutez les sources, les autres potentiels, les solaires, l'éolien, la géothermie, ainsi de suite, vous verrez que le potentiel de la RDC va au-delà des 100 000 MW, peut atteindre 200 000 MW. Pourquoi pas 300 000 MW? Parce que sa position telle qu'il est situé à l'équateur le met dans une situation telle que l'ensoleillement visite la RDC d'une façon qui fait que on peut développer l'énergie solaire et produire de l'électricité à grande échelle et atteindre même 50 000 MW rien qu'avec les solaires. Donc, à ce stade, il n'y a pas suffisamment d'incitations pour encourager les secteurs privés, parce qu'il faut se le dire, même si on a libéralisé les secteurs. Les secteurs ont été libéralisés depuis 2014 avec la loi, mais il faut aussi des incitations, il faut que le monde des affaires puisse comprendre que produire de l'énergie peut aussi être une opportunité de faire des affaires, en même temps développer les plutôt booster la croissance économique au niveau local, parce que les exemples le montrent. Là où il y a eu des balbutiements de quelques opérateurs indépendants qui ont profité du contexte de la libéralisation pour produire de l'énergie électrique, on a vu l'impact que ça a eu sur le plan social, sur le plan socio-économique. Je parle ici de l'exemple de ce qui se passe à Goma avec les producteurs indépendants qui travaillent notamment Virunga Energy, nos amis des Nourou qui travaillent dans les solaires, ainsi de suite. Il faut aller sur place pour voir l'impact, minime soit-elle, mais en tout cas, que l'on peut voir sur la transformation de la vie sociale du quotidien des habitants de Goma. Eh bien, si c'est des exemples comme ça sont multipliés dans toutes les provinces où, je le répète, on retrouve pratiquement toutes ces sources-là. Avec le réseau hydrographique de la RDC qui est composé de plusieurs lacs, de plusieurs rivières, de plusieurs cours d'eau, eh bien, on peut construire des micro-centrales hydroélectriques dans pratiquement tous les coins de la RDC. Mais cela doit s'inscrire dans un plan qui n'existe pas encore. Et c'est comme ça que les opérateurs privés s'élancent de manière en solo, ils identifient des sites de leur manière, et ils essaient de faire tant bien que mal, de produire. Mais encore une fois, c'est pour répondre à leurs propres besoins. Mais les besoins de la population n'est pas encore pris en compte dans le cadre d'un programme intégré de toutes les ressources énergétiques qui existent au pays et qui doivent être développées suivant l'évolution de la démographie de la population de la RDC.
Bien, vous avez dit que le secteur a été déjà libéralisé et que les privés peuvent aussi s'élancer dans la production, le transport et la distribution de l'énergie électrique. Bon, il y a déjà quelques privés, vous avez cité Virunga, Nourou à l'est qui fournissent déjà de l'électricité. On va accueillir quelques auditeurs. Mzee Mukulu nous appelle à partir de Butembo, Sam Akwete et Tamweneditu. Mzee Mukulu, bonjour.
Bonjour.
Alors, qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la couverture en énergie électrique? Là-bas, à Butembo, il y a des privés, par exemple, qui fournissent déjà l'énergie électrique?
Oui, il y a au moins des privés. Nous voyons la maison SS avec James Vanuti qui nous produit du courant à partir du site de Ivoua. La microcentrale produit 2,4 MW. Alors, 1,2 MW faire la ville de Butembo et 1,216 faire la ville de Beni. Alors, ils sont en train de produire l'autre centrale sur Moussou Saver et Isalim. Donc, c'est vers la rivière qui va produire 16 MW, qui pourra servir la ville de Butembo. Mais nous nous rendons compte que, bon, bien
Monsieur Moukoulou, par exemple, à Beni, il y a aussi le système des kits groupés, des privés qui ont des groupes électrogènes et qui fournissent l'électricité dans un rayon à certaines parcelles.
Bien sûr, bon, les kits groupés sont des systèmes juste de fortune. Là, on se rend compte que ce n'est pas du courant qui est disponible toute la journée. C'est stocké uniquement pour des charges, téléphones, des cabines, des téléchargements, et ainsi de suite. Soit le soir, à partir d'un temps bien déterminé. Ça peut être de 10h30 jusqu'autour de 22h. Mais ce n'est pas à dire que c'est un beau courant qui peut nous servir à, par exemple, à éviter la destruction de l'environnement. Parce que plus il y a un bon courant, on va bien sûr protéger notre environnement. Alors les pollueurs-payeurs vont chaque fois payer en produisant le carbone à partir des arbres. Et ainsi, nous allons protéger notre environnement parce que le courant hydrographique est moins cher que le courant du vide groupé parce que là, on a besoin du carburant, on a besoin de l'huile pour éviter des pannes et ainsi de suite. Mais aussi, le courant solaire a aussi des problèmes parce que, par exemple, lorsqu'il n'y a pas assez de soleil, alors on retrouve qu'on ne sera pas bien servi. C'est ainsi que les batteries que nous avons ne répondent pas suffisamment, au moins à la qualité de notre besoin. Par exemple, pour les fers à repasser, des cuisinières électriques, on se rend compte qu'on ne répond pas aux besoins. Mais avec des centrales hydroélectriques, on est en mesure de répondre à tous ces besoins-là. C'est pour ça, mon besoin est de voir notre pays investir dans des productions, dans des centrales, micro-centrales, pour éviter, bien sûr, la destruction de l'environnement en coupant des arbres par-ci, par-là, pour avoir de la braise, soit pour avoir du bois de chauffe. C'est ainsi que vraiment, comme notre pays est parsemé de rivières par-ci, par-là, c'est mieux qu'on puisse investir cet argent que d'acheter des panneaux solaires, que d'acheter des batteries, qu'on investisse cet argent en produisant des microcentrales tout autour de nos villes, tout autour de nos villages. Et ainsi, nous allons protéger l'environnement.
Bien, merci, Mzé Moukoulou de Boutembo. Sama Kouete, vous êtes à Mouenéditou. Bonjour.
Bonjour, monsieur Jordi. Je salue aussi tout le monde de la radio Capi.
Est-ce que là-bas, à Mouenéditou, vous avez... Là-bas, à Mouenéditou, vous avez de courant?
À Mouenéditou, précisément, pas à Mouenéditou.
Pardon?
C'est à Mouenéka, à Mouenéka.
Ah, vous êtes plutôt à Mouenéka et non à Mouenéditou. Alors, dites-nous...
Bien sûr que oui.
D'accord. Là-bas, à Mouenéka, il y a de l'électricité?
Bon, l'accès aussi à l'électricité, je constate que ce sont les particuliers qui aident aussi la population fantastique. Parce qu'ici, il y a, par exemple, j'ai un FNCC. Vous m'excuserez malheureusement pour le bruit de l'enfant. L'association, c'est nous par rapport, malheureusement, ne fonctionne pas pour ce moment. Et j'ai constaté que si vous constatez bien, la population se déplace vers différentes villes d'un territoire ou d'un village, donc vers une autre ville, c'est pour l'accès à l'eau potable et aussi l'électricité aussi. Si vraiment on améliore ces points, j'ai constaté que vraiment il n'y aura pas assez de temps dans la ville ou dans les provinces comme on voulait constater bien avant. Mais sinon, c'est un droit qui est bafoué, les droits collectifs, comme on a toujours tendance à dire, nous avons trois générations, les droits civils politiques, droits éco et politiques et autres, et vous constatez bien, il y a les droits civils, mais si les droits collectifs, vous allez constater que c'est très bafoué, l'État ne donne pas accès vraiment aux gens à l'électricité.
Bon, le secteur a été libéralisé. Aujourd'hui, les privés, les gens qui ont les investisseurs, les gens qui ont des moyens peuvent investir dans les secteurs.
Bien sûr, on n'a pas utilisé. Je vous dirais que si possible, et qu'on formait assez d'ingénieurs ici à l'ARC, vraiment c'est un problème que nous devons vraiment régler sur ce point-là. Donc, il faut vraiment qu'on puisse vraiment former des ingénieurs au lieu d'avoir des économistes, des juristes et autres. Nous avons besoin des milliards d'ingénieurs, d'ailleurs, en Afrique, pour vraiment développer notre continent, vu les problèmes qui s'engendrent ces derniers temps.
Bien, merci d'avoir appelé Sama Kouete. Caleb, vous êtes à Kolwezi, à Lissano. Bonjour.
Oui, oui. Bonjour, monsieur le journaliste, l'invité.
Quelle est votre question?
Bien, ma question était comprendre un peu qu'est-ce qui manque au Congo, juste. Imaginez d'abord ici à Colisée ou là-bas. Nous avons Zilo, nous avons Busanga tellement, mais on se demande le courant c'est comment. Alors moi je me suis même dit poser la question, comment expliquer le site qui n'a pas ni barrage ni quoi, comme on dit quoi, en histoire, sans l'Égypte est presque nul. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas, mais nous nous avons des barrages. Comment expliquer cela ne peut jamais être si au Congo avec nos barrages, ou bien soit si le problème des barrages, il n'y en a pas, qu'on organise des systèmes là des panneaux solaires là industrialisés, qu'on peut facilement donner quoi le courant à nous Congolais que nous sommes. Parce qu'au moment où je vous parle ici, il n'y a pas du courant, on suit maintenant la radio qui a fait à travers nos téléphones. Vous comprenez ça, c'est cela qui nous manque. Qu'est-ce qui nous manque chez nous? Les ingénieurs, non, il y en a. C'est ça mon problème.
Mais est-ce qu'il y a des privés qui investissent dans les secteurs pour fournir l'électricité, par exemple, à Colisi?
Pardon, vous dites?
Est-ce qu'il n'y a pas des initiatives des privés qui investissent dans ces secteurs pour fournir l'énergie à Colisi, par exemple?
Non, il n'y en a pas. Nous avons justement juste la SNEL. Vous savez que il est le seul, il n'y a pas de concurrent. Il vous donne quand il veut. C'est ça le grand problème. Et pour le moment là, il n'y a pas d'autres sociétés qui peuvent faire de concurrence avec quoi la SNEL. C'est ça sur les problèmes. Il n'y en a pas. Si vous voulez votre courant, c'est avoir un panneau avec les systèmes, des panneaux, vous-même à la maison, un groupe avec tous les risques, les carburants et quoi là-bas.
Oui.
Il y a des maisons ici à Colisée. D'abord, moi, je vous dis, notre voisin en face, il s'est retrouvé toute sa maison brûlée parce qu'il utilisait les groupes électrogènes, il était victime.
Oh, d'accord. Merci, Caleb. Alexis, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody, une fois de plus, et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Ok, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Dans votre quartier, il y a du courant, par exemple, en ce moment où nous parlons?
Bon, moi, pour le moment, je suis à Massine, hein, à Petro-Congo. Donc, en fait, il y a, comme toute la commune de Massine, hein, à un certain moment, il y a les systèmes de... soit de la loi du plus fort, hein, dans les milieux où nous vivons. Parce que vous allez vous rendre compte que les gens qui ont la capacité d'avoir... la possibilité d'avoir l'accès à l'électricité, ils n'en ont pas. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des anciens de quartier qui se sont appropriés les monopoles. Ils se sont appropriés les monopoles du courant. On les appelle souvent dans un langage courant, bakolo courant.
Et ils font comment pour s'approprier le courant?
Un simple individu peut avoir un câble, ils appellent ça départ unique. Il peut tirer un départ unique, il part, il paye l'argent à la SNEL. Et à travers ces câbles, il commence maintenant à distribuer ses propres courants avec des petits fils qui créent parfois des incendies quand tu plais. Donc, c'est un milieu où l'accès à l'électricité est un peu difficile. Il est vraiment un peu difficile. Sinon, l'électricité, là, la SNEL essaie un peu d'envoyer du courant régulièrement. Mais vous verrez qu'il y a une certaine... Vous pouvez voir, vous êtes sur la même avenue. Deux maisons sont électrifiées. Vous dépassez des autres maisons qui ne sont pas électrifiées. Des autres sont électrifiées. Donc, les deux maisons qui sont milieu, peut-être ils ne s'entendent pas avec les autres ou les propriétaires du courant. On l'appelle toujours comme ça, dans un langage courant. Et ils peuvent être privés du courant, même s'ils ont la facilité. Quand ils vont introduire des lettres à la SNEL, à la direction de la SNEL, donc ce sont des démarches qui prennent du temps. La SNEL va commencer à vous faire des va-et-vient. Nous-mêmes, on a été victimes. On a introduit des lettres à la SNEL il y a autant de mois et on n'a jamais réussi des réponses par rapport à ça. Parce que nous, on ne voulait pas s'approprier de ces courants à la mafie. On voulait que nous ayons notre propre courant. Mais jusque-là, on avait introduit des lettres à la SNEL.
Il n'y a pas de suite.
Nous n'avions pas essayé bien des choses. Et il y a aussi autre chose, monsieur, je vous dis, permettez-moi. Vous aviez parlé de l'accès à l'électricité. Je voulais aussi interpeller à notre gouvernement. Nous ne pouvons pas toujours nous contenter de cette seule source-là, Inga. Nous avons des potentiels naturels à travers le pays, comme dans les provinces, comme les cas au Kasaï avec la centrale hydroélectrique de Katende. Donc cette centrale, selon les informations, a la capacité d'électrifier tous les grands Kasaï, voire même l'une des provinces voisines de l'Angola, c'est la Lunda Nord. Aussi même de l'autre côté des Mwenedji, tout même l'intervenant qui venait d'appeler Mouika là-bas, à travers ces centrales électriques, ils ont la facilité d'avoir un courant, un bon courant. Et vous verrez qu'avec un courant pareil, même l'exode rural, toute cette agglomération que nous sommes en train de voir à Kinshasa, à un certain moment, ça va essayer de diminuer. Et aussi, je lisais dans un livre où un écrivain a dit « L'électricité appelle les entreprises et les usines. » Ce ne sont pas les usines qui vont appeler l'électricité. Si nous avons un bon courant à travers le pays, et nous avons ce potentiel naturel-là, il suffit seulement que le gouvernement mette les moyens en jeu de façon que ces potentiels naturels là soient exploités et puissent pourvoir aux besoins du peuple congolais. Donc le gouvernement doit voir dans ce sens-là et essayer aussi de faire ce qu'ils ont fait dans d'autres communes ici à Kinshasa, les courants prépayés. Ça va diminuer de donner les monopoles à ces bourreaux qui sont dans certains quartiers.
Mais de la périphérie. Alexis, le gouvernement a déjà libéralisé les secteurs. Et donc les privés peuvent aujourd'hui investir et fournir l'électricité.
En fait, ce que je dis, je venais à peine de dire que ces mêmes privés là peuvent venir comment. J'ai soulevé un principe ici. L'électricité appelle les usines, les entreprises. Ces gens-là, quand ils sont ailleurs, parfois, les gens qui viennent de l'Occident et de l'Orient, avant de venir, ils savent qu'au Congo, il n'y a pas un bon courant. Comment ils doivent prendre les monopoles de venir, même s'ils viennent pour produire du courant, mais leurs engins-là devraient commencer par fonctionner par notre propre courant. Alors qu'il n'y en a pas, comment les usines et les entreprises vont venir ici? Donc moi, je pense que la libéralisation, oui, c'est vrai, nous acceptons. Mais les pays devraient d'abord mettre du sérieux dans ce qu'ils font. Donc nous-mêmes, Congolais, nous devons d'abord mettre du sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Entre nous dans des quartiers, on ne peut pas se priver de simples courants. Si je parle comme cela, c'est parce que je suis victime de cela. Et nous ne sommes pas...
Merci, Alexis.
Nous ne sommes pas nous lancer dans les matchs. Voilà un peu de mon intervention.
Bien, merci. Que faire pour augmenter les taux de couverture en énergie électrique en RDC? Dounia Mouigi Roy, vous êtes en territoire d'Idjoui. Bonjour.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Dounia?
Déjà dit qu'il fallait que le service de la présidence puisse trouver un combat amenant une agence spécialisée en fait de réintégrer au moins les milliers d'euros. Du fait que vous allez raconter que la fois dernière, en 2018, le président et son ancien directeur de cabinet, Vita Cameron, fiscal ici à Iji, et il avait besoin du courant. Mais il a pris le mégaphone, qui, malheureusement, le mégaphone, après l'avoir pris, il va parler, malheureusement, les piles étaient déjà
déchargées.
Donc, là, il a dit non. Il a posé la première question. Est-ce qu'ici, il y a du courant? Mais on a dit la population, une grande zone. Ici, il n'y a pas du courant, mais il y a toutes les eaux possibles de donner du courant. Et voilà que, à cette question, il a dit quoi? À haute voix, après si je serai élu, il y a du courant déjà ici à Iji. Vous allez raconter que nous, à Iji, nous sommes un territoire totalement enclavé. Manquer du courant, c'est la bonne volonté des chefs ou de nos autorités qui nous dirigent qu'il faut cela. Du fait que quand nous voyageons, vous êtes en train de voir qu'il y a masse, quelqu'un va quitter Iji 45 km pour aller séjourner en ville de Bukavu. Si dans le papa Bukavu, il va partir séjourner au Rwanda. Uniquement pour voir les matchs. Après cela, il va pleuvoir, vous allez raconter beaucoup d'accidents qui vont se produire. À cette question, nous avons dit que si l'État pouvait nous aider, qu'au moins il y ait cette agence rattachée à la présidence qui puisse uniquement charger de l'éclairage des milliers d'euros. Comme vous avez l'IGF aujourd'hui qui dégage des scandales en ce qui est fuite des capitaux. Cela ne nous est pas de couleur. En plus de cela, quand vous êtes à Goma, vous allez voir, aujourd'hui, c'est Tshisekedi qui est en train de bénéficier beaucoup plus du courant de notre gaz méthane qui est exploité à Goma. Et c'est à cette question, quand nous sommes là, nous nous posons, il s'agit de quelle question, qu'est-ce qui ne va pas dans la volonté de nos dirigeants, dans la volonté de nos chefs. C'est ainsi que nous avons émis la voix de voir cette agence qui puisse uniquement s'en charger des milliers de raisons. Uniquement pour l'électricité, comme on est en train de visiter nos pays voisins ici, le Rwanda, il y a un peu partout, chaque maison, il y a du courant. Mais nous, qu'est-ce que nous avons avec ce potentiel en électricité? Qu'est-ce qui manque? On nous comprend Rusizi 1, Rusizi 2, Rusizi 3. Il y a eu un projet à Iji, on a amené toute une gamme de matériaux. Mais si vous allez passer à la pause de cachot, vous raconterez que les matériaux qui ont été initiés comme projet, c'est déjà caillassé, c'est déjà volé, et ils sont en train de les déplacer n'importe comment. Monsieur le journaliste, quand vous le faites, il faut aussi émettre cette voix à la haute hiérarchie, car c'est nous, les peuples primaires, qui amenons déjà à cette suprématie, mais ils ne font pas être seulement à Kinshasa et voir l'intégrité du Congo.
Bien, merci Dounia. Merci Dounia. Mouigi Roy, depuis les territoires d'Idjoui. Bien, Maître Eric Kassongo, vous avez suivi les différentes préoccupations. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs à ces sujets?
Bien, tous les problèmes qui sont soulevés sont réels. La question relative au kit groupé, par exemple, que les gens utilisent pour s'électrifier, ce sont là des initiatives privées qui viennent en fait, essayer de combler les lacunes des grands investissements des privés. C'est vrai que même si on a libéralisé, le secteur privé doit aussi se sentir libre pour se développer. Il y a encore beaucoup de défis pour les opérateurs privés qui se lancent dans la production de l'énergie avec les problèmes concurrentiels qui existent avec l'ancien opérateur qui est SNEL, dont le processus de transformation n'est pas encore complètement terminé, qui donne parfois lieu à des problèmes sur le terrain, sur la redistribution, par exemple, des carrés de distribution entre les nouveaux producteurs et l'ancien opérateur, ainsi de suite. Donc, il y a certes des potentiels à développer les énergies renouvelables, mais j'insiste sur le fait que les opérateurs qui doivent se lancer doivent trouver des conditions...
Des mesures incitatives.
Des mesures incitatives, un climat encourageant pour pouvoir leur permettre justement, comme je le dis toujours, de concourir à cette mission régalienne. Parce que donner de l'électricité, telle que prévue dans l'article 48 de la Constitution, est une mission régalienne de l'État. La libéralisation est une forme de désengagement qui permet au privé de venir prêter main forte à l'État dans sa mission de donner l'électricité à la population. La libéralisation ne veut pas dire que l'État se désengage de sa mission de donner l'électricité. Autant pour le secteur de l'éducation, lorsque les privés viennent, ils doivent trouver un cadre propice qui leur permette d'aider justement l'État à développer tout ce qu'il y a comme opportunité.
Bien, alors, quels sont les types de mesures incitatives qu'il faut mettre en place pour encourager les privés à investir dans les secteurs?
Bon, il y a déjà cette question de la simplification des formalités administratives. Quand un privé veut se lancer dans un projet de production de l'énergie ou de distribution ou de commercialisation, il doit faire, et il y a maintenant l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, dont certains opérateurs reprochent une certaine lenteur ou lourdeur dans le traitement des dossiers. Ça, c'est un problème qu'il faut résoudre. Il y a le problème de l'accès au financement. Il ne suffit pas de dire que non, voilà, le secteur est libéralisé, les privés allaient produire. Il faut aussi donner à tous ceux qui cherchent à produire, tous ceux qui ont mis dans la tête de pouvoir développer une micro-centrale électrique, créer un parc solaire ou un champ éolien, il faut leur donner accès au financement. Il ne faut pas que l'État libéralise et en mettant les entrepreneurs, parce que ce sont des entrepreneurs, c'est des entrepreneuriats, tous les systèmes bancaires national doit être propice à disponibiliser justement l'accès au financement de ces acteurs. Parce que produire l'énergie, ça coûte cher, Monsieur Jody Daniel Kachama, et ça coûte énormément cher. Il ne suffit pas que les privés viennent se lancer, il faut aussi qu'ils trouvent des canaux faciles pour leur permettre d'accéder justement à ce financement-là. Autre chose, c'est aussi leur permettre de les orienter. Orienter ces producteurs indépendants pour donner l'électricité là où il y en a besoin. On vous a mentionné l'exemple, par exemple, de la ville de Kolwezi, où il n'y a pas de courant. Le barrage de Busanga, qui est en train d'être finalisé par les Chinois, est une initiative d'un minier. Vous voyez, c'est un privé qui construit un barrage de 240 MW, mais dont la totalité, si pas plus de la moitié, est destinée à alimenter justement les usines et les industries de la société Sicomine. Vous voyez, c'est une initiative privée. Il y a eu des négociations pour faire en sorte qu'une portion de cette énergie-là puisse être envoyée dans un réseau public pour servir à la population. Je pense que ce sont les négociations qui sont en train d'aboutir et ça serait une bonne chose que même 40 ou 30 mégawatts de ces 240 mégawatts qui sont produits puissent servir à la population. Mais ce n'est pas assez. Et encore une fois, quand les miniers se lancent dans la production de l'énergie, ce n'est pas pour la population, c'est pour leurs besoins industriels. Donc, il faudrait qu'on soit dans une position telle que un opérateur économique qui est installé dans un coin comme le Lualaba, à Kolwezi, soit en mesure de produire de l'énergie électrique sur la base des sources qui existent et qui puisse les mettre dans le réseau pour distribuer à la population, mais que les conditions soient réunies. Au moment où nous parlons, c'est très difficile, même pour ceux qui se sont déjà lancés, de pouvoir se sentir vraiment à l'aise dans ce secteur. Donc, il y a beaucoup de choses à faire en termes d'incitation au niveau du gouvernement pour assainir ces cadres et assouplir aussi les, 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 et tout ce qu'il y a comme fiscalité ou parafiscalité dans les secteurs pour encourager à ce qu'il y ait de plus en plus d'initiatives des productions d'énergie qui puissent soulager la population.
Bien, il y a Dounia depuis Idjoui qui nous a parlé de l'Agence nationale de l'électrification qui a été déjà mise en place, l'Agence ANCER, l'Agence nationale de l'électrification en milieu rural et périurbain. Donc c'est toujours pour résoudre ce problème des déficits en courant électrique.
Oui, l'Agence nationale d'électrification a été créée par la loi 2014. Mais entre 2014 jusqu'à aujourd'hui, l'agence n'a été installée proprement que l'année dernière. L'agence est en passe de fêter son premier bilan d'une année, mais l'agence fait face à des difficultés énormes de mobilisation de financement. Vous avez suivi le lancement du fonds Mwinda lancé par le président de la République, justement pour mobiliser suffisamment de l'argent. Mais c'est un vœu que le président a émis. Après, il faut formaliser, il faut opérationnaliser concrètement. Je vois c'est que le travail qui est en train de se faire au niveau de l'ANCER peut, dans les jours à venir, apporter, changer les paysages énergétiques du pays. Mais encore, il y a encore du travail à faire parce que il y a ce défi important que d'accéder au financement. Même l'ANCER est confronté à ces problèmes de financement. Et quand je parle de problèmes de financement, on a toujours tendance à penser que, bon, voilà, pour développer un secteur comme l'énergie, il faut que l'argent viennent toujours de bailleurs de fonds, viennent de l'étranger, viennent des secteurs privés. Il faut aussi que l'État soit responsable dans la disponibilisation des moyens nécessaires qui puissent permettre à des structures telles que l'ANCER de fonctionner. Il ne faudrait pas toujours tabler sur les financements qui viennent d'ailleurs. Le projet de budget a été déposé récemment par le Premier ministre Samuel Lukonde au Parlement. Il faut s'interroger. Quelle est la fourchette? Quel est le pourcentage qui a été alloué au ministère de l'Énergie et Ressources Hydrauliques? Et si, effectivement, ce qui est alloué comme pourcentage est libéré? Généralement, ce qui est stipulé dans les budgets n'est pas toujours ce qui est libéré. Dans un exercice budgétaire, vous pouvez arriver à la fin de l'exercice budgétaire sur le 100% qui est prévu pour allouer dans un secteur. Parfois, on atteint difficilement les 50%. Ça, c'est des problèmes qui font que les secteurs ne puissent pas se développer et que des structures comme l'ANCER, bien qu'ils ont des objectifs très nobles avec des ambitions très intéressantes, ne pourront pas atteindre leurs objectifs si on ne fait pas en sorte qu'au niveau national, on crée des canaux de mobilisation des ressources qui permettent de faire ne fût-ce que les 50% du travail qui est prévu au lieu de tout attendre des bailleurs de fonds.
Bien, Benjamin Bahati nous appelle de Bounia, nous parlons de la couverture, comment augmenter le taux de couverture en énergie électrique. Benjamin Bahati, bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre préoccupation?
Ma préoccupation est celle-ci, monsieur le journaliste, même si je ne vous ai pas salué. Vous voyez aujourd'hui ici, par exemple, à Bounia, on parle de l'électricité. Mais vous allez vous constater que le courant arrive par exemple la nuit et puis ça fait juste 2 heures du temps et puis le courant n'est plus. Alors est-ce que au lieu de voir ça aux partenaires par exemple privés de donner ça, de donner par exemple le libéralisme comme vous l'avez souligné, est-ce qu'il n'y a pas de moyens, comme par exemple Joseph Kabila, il avait dit pendant son régime, les 5 chantiers, il va faire en sorte que le courant soit épais partout. Est-ce que le gouvernement à soi-même n'a pas la capacité de prendre en charge les problèmes de l'électricité dans son pays, étant donné que c'est le pays qui lui appartient? Le pays ne peut pas être dans l'obscurité, le pays ne peut pas être vraiment sombre comme si on n'a pas de gouvernement. Alors c'est incompétence du gouvernement lui-même, parce que gouvernement fait confiance aux gens au lieu de lui faire, au lieu qu'il lui fasse la confiance lui-même.
Alors moi, je demanderais à ce que les gouvernements, par exemple, de Wario ici, fassent en sorte que l'énergie soit une priorité de la population, parce que la population paye chaque mois, mais le courant vient, par exemple, deux fois par mois. Est-ce que ça, ce n'est pas vraiment la grivellerie la grivellerie qui se passe au sein du gouvernement congolais?
Alors,
c'est ce que moi je peux demander.
D'accord.
Ce qui se passe, c'est juste vol vraiment simple et qualifié, on pourrait dire, ce que le gouvernement congolais est en train de faire.
Bien, que faire pour augmenter les taux de couverture en énergie électrique en RDC? Gadwin Infumu, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, Jolie.
On vous écoute.
Voilà, moi, je pense que nous avons deux barrages d'Inga qui, normalement, devaient desservir toute la République et facilement, tout le monde aurait de l'électricité. Pourquoi construire un autre barrage alors que nous avons déjà deux? Cet argent, on pourrait le placer dans deux barrages là-bas et réhabiliter les infrastructures pour que tout le monde ait accès à l'électricité.
Bien, d'après vous, il faut réhabiliter les deux barrages et permettre à tout le monde d'accéder à l'électricité. Jurès Emaka nous a écrit, il est député de Bandundu, il dit « Les recours à l'énergie solaire restent un moyen efficace pour remonter la pente, car le transport et le vieillissement du réseau de la SNEL nous fera attendre toute une éternité. » Maître Eric Kasongo.
Oui.
Vous avez la parole.
Oui, mais je prends la dernière phrase que vous venez de dire, et je pense que ce monsieur a raison. Et c'est tout notre combat lorsque nous disons qu'il existe plusieurs sources alternatives qui peuvent être confrontées à la grande hydroélectricité et qui peut facilement apporter de l'énergie électrique aux Congolais et à moindre coût et très rapidement. Parce que souvent, les grands projets, pour mentionner celui qui a parlé du projet Inga, prennent des années pour les montages. Rien que pour le projet Inga 3, par exemple, je peux vous dire que depuis le temps qu'on en parle, ça fait 20 ans qu'on est dans les paperasses, dans les scénarios, dans les formats.
Et ça n'évolue pas.
20 ans, on n'a pas encore posé la première pierre. Alors que si vous prenez le temps qu'a pris des firmes telles que Virunga, telles que Nouveau Énergie, telles que d'autres qui se mettent en place pour produire l'énergie électrique, à petite échelle, et l'impact que cette énergie a eu sur la population, j'ai aimé une phrase d'un de vos auditeurs qui a dit que c'est l'électricité qui amène le développement. Et l'électricité, quand l'électricité est disponibilisée, c'est ça qui amène la création des entreprises. Et c'est vrai, ça c'est une réalité que nous vivons actuellement dans la ville de Goma. Et donc, il faut privilégier ces sources-là qui sont plus faciles à développer. Alors, le potentiel d'Inga 1 et 2, Inga 1 et 2, c'est vrai, Inga 1 et 2, soulage beaucoup la population congolaise en termes d'énergie, mais il faut se dire que Inga 1 et 2 a été longtemps mal géré, ils n'ont jamais fonctionné à 100% de leur capacité. Inga 2 qui a 8 turbines et Inga 1 qui a 6 turbines, toutes ces turbines-là n'ont jamais totalement fonctionné. Sur le 1700 MW qui est censé produire ces deux infrastructures, rarement dans l'histoire on a atteint les 1000 MW ou les 1100 MW. Des efforts sont en train d'être faits actuellement pour la réhabilitation de certaines turbines, mais encore une fois, ce sont des miniers qui viennent en appui justement à la SNEL pour faire face à ces difficultés de faire fonctionner, de faire tourner les turbines. Et donc pour nous, la solution à long terme pour permettre à ce que les populations puissent accéder à l'énergie et booster la croissance économique au niveau local, c'est justement de privilégier ces sources énergétiques qui existent légion et dont le potentiel n'est plus à démontrer, dont l'impact économique au niveau des populations n'est plus à démontrer. Et ce ne sont pas des sources qui sont situées seulement dans un coin de la République. Aujourd'hui, si nous devons nous reconfigurer dans notre ancien format des provinces, des 11 provinces, toutes les provinces sont dotées de sources énergétiques capables de booster l'économie au niveau local. Mais ces sources-là doivent faire partie d'un plan d'un plan macro des ressources énergétiques pour voir comment progressivement le gouvernement s'emploie à les développer de manière à stimuler la croissance économique au niveau de la base. C'est pour ça d'ailleurs que dans ce cadre-là, au niveau de la société civile, plusieurs initiatives se mettent ensemble. Il y a un réseau qui est né, vous avez certainement entendu parler du réseau Mwangaza, qui regroupe plusieurs organisations qui sont situées dans pratiquement toutes les provinces de la RDC, dans le sens de stimuler les bonnes habitudes qui peuvent accélérer l'accès des populations à l'énergie, à travers des études qui démontrent que voilà, il est possible, soit par la réhabilitation des anciens barrages hydroélectriques, il y en a beaucoup, on en avait de nombreux, un de nos collègues de la société civile en avait de nombreux 63 barrages hydroélectriques à l'abandon, hein, et qui ne sont pas des grands barrages, mais qui, s'ils sont réhabilités, peuvent soulager la population. Vous avez aussi la promotion des micro-centrales hydroélectriques avec le grand réseau hydrographique qui existe à RDC. Ça coûte pas cher de développer une micro-centrale hydroélectrique. C'est 50 000 dollars. Avec 50 000 dollars, vous avez une micro-centrale hydroélectrique et vous pouvez électrifier plusieurs ménages avec. Donc je vous laisse imaginer avec l'abondance des cours d'eau que nous avons, si nous faisons comme des pays comme l'Autriche ou... Malgré le fait qu'ils sont, ils ont un potentiel hydroélectrique important, mais ils ont choisi de faire des micro-centrales hydroélectriques. On en a multiplié autant. Et c'est des pays où jamais le courant ne partira. Jamais on aura les problèmes que notre ami de Massina a exposé, de dire que non, voilà, il y a les bacolo courants, des gens qui demandent des départs uniques qui est devenu les systèmes aujourd'hui à Kinshasa. Et ma foi, c'est déplorable. Ce ne sont pas des choses qu'il faut encourager.
Et même les délestages, il y a trop de coupures intempestives d'électricité.
Trop de coupures parce que trop de surcharges, justement, la vétusté des matériels qui sont, des matériels de distribution qui ne sont pas mis à jour. Il y a aussi un problème de gestion dans ce sens-là, pour la maintenance des matériels qui permettent aux gens d'accéder au courant, maintenir ces matériels-là, les renouveler. Et quelqu'un avait parlé du personnel. Il faut aussi rafraîchir. Il y a beaucoup de jeunes gens qui sortent des listas, qui n'ont pas d'emploi. Il faut leur donner l'opportunité de se former de manière correcte pour que soit à même d'assurer la maintenance de l'outil, même celui qui existe encore. Parce que même l'outil existant est confronté à un problème de gestion,
d'entretien, tout grave, ça, ouais, de maintenance.
Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes tous victimes de problèmes d'accès à l'électricité.
Bien, on va accueillir Héritier de Bounia et Justin Kalabiade Harou. Que faire pour augmenter les taux de couverture en énergie électrique à RDC? Héritier, bonjour. Héritier de Bounia, bonjour. Bien, on va accueillir Justin Kalabiade depuis Harou. Bonjour.
Bonjour monsieur, je dis Daniel Kachama, bonjour à notre invité du jour.
On vous écoute. Oui, ça va bien, on vous écoute.
Oui, j'ai une suggestion avant que je pose ma question, monsieur Jody.
Oui, allez-y.
Oui, pour intensifier l'accès à l'énergie électrique en amont, il faut absolument la réforme de la SNEL, monsieur Jody, en lui dotant aussi des vrais moyens financiers conséquents. Et aussi, on doit restructurer profondément les infrastructures et le personnel de la SNEL, monsieur, j'ai dit en aval. On doit aussi créer des concurrences déloyales en mettant aussi des relèvements pratiques de loi, de la privatisation de la SNEL. Monsieur, je dis, j'ai un témoignage ici.
Justin, là-bas, Harou, vous faites comment pour avoir l'électricité?
Nous utilisons des panneaux solaires et donc des batteries. Moi, j'ai un témoignage avant que je pose ma question. J'ai un témoignage, monsieur, je dis.
Oui.
Ici, chez nous, à Harou, il y avait des hommes politiques. Nous avons des lapadaires qui commencent à tomber, tel-même. Des hommes politiques ont allé prendre des images de l'Ouganda, donc d'une ville d'Ouganda vers Arua, c'est une ville ougandaise, et maintenant ils ont amené ces images là, voilà les territoires d'Arou. Or, ils amènent ces images à Kinshasa et pour voir que... Pour tromper les gens. En tout cas, moi, je ne veux pas que ces histoires encore se manifestent dans notre territoire. Ici, ils avaient amené des fils de la padère, ils ont installé, et la padère ont tombé, les fils aussi... Ils s'envolent, donc dans la rue, et les voleurs sont venus.
Ils ont tout volé.
Oui, ils ont tout volé. Et je ne sais pas quels sont maintenant les... Oui, ma question est celle de savoir, monsieur Jody, pourquoi l'État veut créer les barrages, les Inga 3, barrage Inga 3. Nous pouvons il ne parvient pas à assurer d'abord les trois, le barrage et les deux précédents barrages. Merci.
Bien. Justin Calabia vient de poser sa question. On va donner la parole maintenant à Jean-Claude de Kindou. Bonjour. Jean-Claude, vous êtes à Kindou, bonjour. Héritier de Bounia, vous êtes là? Voilà, ils sont plus là. Maître Eric Kassongo, vous avez la parole. Pourquoi avoir un projet d'Inga 3 alors qu'on peut d'abord commencer par réhabiliter Inga 1 et 2?
Mais justement, c'est ça la question. Notre discours, c'est de dire que voilà, il faut que nous ayons un plan intégré de ressources énergétiques nationales qui définisse comment est-ce que, source par source, le gouvernement entend développer ces ressources énergétiques pour le bien de sa population. Parce que le projet Inga 3, par exemple, c'est un projet qui vient dans un contexte qui est sort de tout cadre énergétique, de tout plan énergétique au niveau de la RDC. C'est des investisseurs qui sont intéressés les uns pour la commercialisation, les uns pour la production locale. Quand vous regardez bien tout ce qu'il y a comme discussion autour de ce projet, tout ce qu'il y a eu comme initiative par le passé, ce sont des visions qui sont portées par des investisseurs et qui savent, eux, ce qu'ils veulent faire, mais rarement ce que nous voulons faire de ce site Inga. Or, si nous voulons faire réellement quelque chose de ce Inga 3 ou du Grand Inga, nous devons l'inscrire dans le cadre d'un plan intégré des ressources qui intègre non seulement les potentialités hydroélectriques dans l'hydroélectricité, mais aussi les potentialités dans d'autres ressources telles que le solaire, l'éolien, ainsi de suite. C'est de cette manière-là qu'on peut faciliter la tâche
Maître
à la Fédération,
Eric,
par exemple, des entreprises du Congo, au monde des affaires, pour amener des projets d'investissement qui permettent à ce que on puisse accélérer l'accès des populations à l'énergie électrique.
Maître Eric, un auditeur a parlé tout à l'heure du gaz que nous avons au niveau du lac Kivu. On peut exploiter ces gaz pour produire de l'électricité, comme
il
le fait déjà
le gaz,
Rwanda.
Il y a la géothermie, il y a même l'énergie thermique, l'énergie nucléaire. Tout cela doit s'inscrire dans le cadre d'un plan. Il faut que la République démocratique du Congo se dise, tiens, aujourd'hui nous sommes en 2021. Qu'est-ce que la République démocratique du Congo entend faire pour son potentiel solaire d'ici 20 ans? Qu'est-ce qu'il entend faire pour son potentiel hydroélectrique d'ici 20 ans? Et en ayant en visuel, justement, le développement démographique de la population. Il est prévu que la population de la RDC atteigne les 140 millions d'âmes d'ici 2030. Nous devons avoir une idée de ce qu'on pourra offrir comme énergie électrique à ces 130 millions d'habitants. Et ça doit partir d'un plan. Ça ne s'improvise pas. Or, actuellement, que ce soit dans les cadres de Inga, ou les initiatives isolées qui se font plutôt dans les secteurs privés avec les miniers qui veulent pallier au déficit de leur fourniture en énergie, c'est des solutions du jour, c'est des solutions improvisées, aucune planification. Ailleurs, partout au monde, c'est la planification qui permet à ce que ce soit sur le secteur industriel, que ce soit dans les domaines de ménage, comment résorber le déficit d'accès à l'électricité de ménage, on le fait dans le cadre d'un plan. Eh bien, ce plan-là, en RDC actuellement, n'existe pas. Est-ce qu'on doit continuer comme ça? Moi, je dis non. Il faut encourager le gouvernement, et comme c'est un gouvernement, comme on dit, des warriors, justement, à réfléchir sur le meilleur scénario possible. C'est vrai, nous avons l'autorité de régulation qui est là, nous avons l'ANSER, avec tout ce qu'il y a comme défi, mais encore une fois, que ce soit ce que fait l'ANSER ou d'autres structures du ministère de l'Environnement, ça ne s'inscrit pas dans le cadre d'une vision dans laquelle la RDC sait où elle va à partir de ce qu'elle a maintenant. Et c'est ça le plus grand problème de la RDC. Il faut planifier, il faut faire ce qu'on appelle la planification énergétique qui intègre toutes les sources. Le gaz méthane que vous avez mentionné, les nucléaires que vous avez mentionné.
Le soleil.
C'est vrai qu'il y a des impératifs liés à la lutte contre les changements climatiques ou encore à des projets qui sont plus ou moins propres, qui sont moins dangereux pour les populations. Mais encore une fois, ce sont des sources qui existent. Il faut que ça soit inscrit dans un plan et que le Congolais, le gouvernement congolais sache ce qu'il doit faire de son potentiel d'ici autant d'années pour résoudre le problème.
Bien, autrement, alors, au-delà,
dans
au-delà,
les noirs,
d'accord.
Et ce serait difficile.
Au-delà de cela, par exemple, pour les privés qui veulent investir, vous avez dit qu'il faut des mesures incitatives. D'abord, mettre fin à cette lourdeur dans les traitements des dossiers pour de ceux-là qui veulent lancer leurs entreprises et puis l'accès au financement.
Exactement.
Bien.
L'accès au financement. Mmh. Et si sur le plan fiscal aussi, assouplir la fiscalité de ceux qui viennent concourir à l'accomplissement d'une mission régalienne. Il faut le rappeler, monsieur Jody Janel Kachama, que donner l'électricité est un droit constitutionnel et c'est une mission régalienne. Ça veut dire que ça revient à l'État. Les privés viennent en concours. Et quand quelqu'un vient en concours, on doit lui faciliter la tâche dans tous les domaines. On doit lui permettre d'accéder au financement. On ne doit pas faire une lourdeur administrative pour la création, pour l'obtention de titres et ainsi de suite. On ne doit pas non plus le charger des impôts,
des taxes, etc.
Alors qu'il vient résoudre un problème vital.
Bien, Maître Eric Kasongo, directeur exécutif du Centre congolais pour le développement durable, CODED, merci d'avoir répondu à notre invitation et bon début de semaine.
Merci à vous pour m'avoir invité.